Vous écoutez, on lit pour vous.
Les catastrophes évitées par Montréal, un texte de Maxime Bergeron, paru le 22 décembre 2025 dans la presse. Pourriez-vous imaginer le vieux Montréal avec une autoroute plantée dans son cœur? Le Mont-Royal, surplombé par une tour et un restaurant tournant de 300 mètres? Le quartier Milton Park, rasé pour faire place à une forêt de gratte-ciel? Ou encore, l'avenue McGill College, dotée de la vue la plus spectaculaire sur la montagne, sacrifiée pour faire place à un gros centre commercial? Ces scénarios ne sont pas fictifs. Ils sont tous passés à un cheveu de se matérialiser. La catastrophe patrimoniale a été évitée à bien des reprises dans la métropole grâce à quelques pionniers de l'urbanisme. Et un organisme en particulier a joué un rôle de premier plan, Héritage Montréal. Dis-nous, Boom Barou, ce nom vous dit quelque chose? Dis-nous, Boom Barou, vieux routier d'Héritage Montréal qui, avec l'architecte et philanthrope Phyllis Lambert, ont tous deux joué un rôle inestimable dans la protection du patrimoine montréalais. Il ressurgit dans les médias dès qu'une vieille affaire est menacée. Le directeur des politiques d'Héritage Montréal a revisité avec moi certains projets aberrants qui ont failli défigurer la métropole à l'occasion des 50 ans de son organisme. Le plus insolite? Cette tour de 300 mètres, l'équivalent de 100 étages, que le maire Jean Drapeau a voulu ériger sur le Mont-Royal en 1986, à la fin de son dernier mandat. Radio-Canada souhaitait remplacer sa vieille antenne de télécommunication sur la montagne. Mais Drapeau, fidèle à lui-même, a doublé la mise. Il a proposé un projet dopé aux stéroïdes, lui qui avait tant fantasmé sur le mât incliné du stade olympique. Le chic du chic à l'époque, cette tour aurait comporté un restaurant rotatif à son pinacle. Un nouvel emblème pour Montréal, ultra-moderne. Imaginez. Le maire Drapeau et sa personnalité commençaient à susciter beaucoup d'opposition, se rappelle Dinou Boom Barou. Ça a coalisé beaucoup de gens, ainsi qu'Héritage Montréal. On a demandé en 1986 au gouvernement du Québec, Alice Bacon, qui était ministre à l'époque, le classement du Mont-Royal. Les efforts des opposants ont porté leurs fruits. Drapeau a fini par lâcher le morceau. Il aura fallu attendre jusqu'en 2005 pour que Québec accorde un statut patrimonial au parc du Mont-Royal. Mais les premières graines avaient été semées. Non loin de là, la courte avenue McGill College a failli être condamnée au début des années 1980. Pour vous situer, elle va de la place Ville-Marie jusqu'à l'Université McGill, dans l'hypercentre de Montréal. Un promoteur, Cadillac Fairview, ambitionnait de construire un centre commercial au milieu de la rue. Ce mur écran aurait annihilé la meilleure vue sur la montagne. Levée de boucliers, campagne publicitaire dans les journaux, Héritage Montréal a tout fait pour attirer l'attention sur ce fiasco annoncé. Le mouvement a fait boule de neige. Dis-nous, Boom Barou se souvient. C'est là qu'il y a eu vraiment une alliance assez improbable, mais qui a été très efficace, entre les milieux d'affaires, de l'immobilier, Héritage Montréal, les milieux professionnels et les facultés universitaires, pour que Montréal se dote enfin de règles d'urbanisme. Des gratte-ciels ont poussé autour, mais McGill College et sa trouée visuelle a survécu. Une destruction de masse du patrimoine a été évitée dans le vieux Montréal dans les années 1960, avant même la naissance d'Héritage Montréal. C'était l'ère du progrès, de l'automobile, du béton, de la banlieue. Le grand projet de l'époque, faire passer une autoroute dans le centre historique de la ville, rue de la Commune. L'autostrade aurait relié l'échangeur Turco et son spaghetti de bretelles à l'est de Montréal. Dommage collatéral, la destruction d'un pan entier du vieux Montréal. Un détail à l'époque. Ce n'est pas juste sur la rue de la Commune, c'est aussi des rampes d'accès qui viennent défigurer, charcuter le tissu urbain, les bâtiments historiques, tout y passait, raconte avec effroi M. Boumbarou. C'était un projet complètement de son époque, mais complètement dévastateur. Le militantisme d'un couple d'architectes, Blanche et Sandy Van Ginkel, a réussi à faire avorter le projet. On peut leur attribuer la sauvegarde du vieux Montréal et la naissance d'un mouvement pro-patrimoine qui a ouvert la voie à Héritage Montréal et à d'autres organismes. Il faudrait leur ériger un véritable monument de reconnaissance, croit M. Boumbarou. Bien d'autres carnages, plus ou moins grands, ont été évités de justesse. Héritage Montréal a souvent été aux premières loges pour se battre auprès des citoyens et sonner l'alerte dans les médias. Je pense entre autres au quartier Milton Park, niché entre le Mont-Royal et le centre-ville. Il a failli être rasé presque en entier pour faire place à une série de gratte-ciels, un projet réalisé en partie. La forte mobilisation a permis de sauver des centaines de résidences patrimoniales et de créer ensuite la plus grande coopérative d'habitation au Canada. Une icône sauvée. La célèbre pinte de lait fabriquée en 1930 par la Dominion Bridge de la Chine, qui dépérissait à vue d'œil au centre-ville, a pu être sauvée de la démolition grâce à une campagne orchestrée par Héritage Montréal. Et une autre, démolie. D'autres batailles ont été perdues. La superbe maison Red Pat au centre-ville est ainsi passée sous le pic des démolisseurs en 2014, malgré les levées de boucliers. Il reste des dizaines d'immeubles en péril aux quatre coins de la métropole, des casernes de pompiers, d'anciens hôpitaux, des églises, de vieux bains publics. Héritage Montréal les recense dans une carte interactive, riche en informations. C'était « Les catastrophes évitées par Montréal », un texte de Maxime Bergeron, paru le 22 décembre 2025 dans la presse.
Pas d'assouplissement pour hospitaliser de force une personne en crise, recommandent des experts. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir. Québec ne devrait pas assouplir les critères qui permettent aux policiers d'hospitaliser de force une personne en crise, tranche un groupe d'experts au terme de 2 ans de travaux. D'autres moyens doivent être privilégiés pour éviter des drames, disent-ils. En mai 2023, l'ancien ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, avait demandé à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, IQRDJ, de se pencher sur la loi P38, intitulée « Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui ». Il voulait savoir si la loi devait être revue. 2 mois plus tôt, à Louisville, la sergente Maureen Brault avait été poignardée à mort après être allée frapper à la porte d'un homme de 35 ans, atteint d'un trouble schizoaffectif. Pour hospitaliser de force une personne, il faut qu'elle représente un danger grave et immédiat. Or, ces dernières années, plusieurs groupes, dont l'Association des médecins psychiatres du Québec, réclamaient qu'on retire le critère d'immédiateté afin d'intervenir plus tôt et de limiter le risque d'actes violents. Mais pour l'IQRDJ, c'est une limite à ne pas franchir. La loi P38 doit rester une mesure d'exception parce qu'elle constitue une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux. Bien que le mandat de cette étude porte sur la loi P38, les résultats n'ont cessé de démontrer que les difficultés observées tiennent moins à la loi elle-même qu'au manque de services et de ressources consacrées au soutien social et à l'accompagnement en santé mentale. Dès lors, l'hospitalisation forcée devrait être utilisée en dernier recours lorsque toutes les autres options ont échoué ou sont inapplicables. Des intervenants pivots à l'hôpital. Les auteurs du rapport, Valentine Faux, Maude Boucher-Réel et Anna Cara, proposent toutefois des changements sur d'autres fronts. Elles recommandent la création d'un poste d'intervenant pivot en milieu hospitalier pour les personnes placées sous garde. Ces intervenants devraient suivre le parcours de soins de la personne et la référer au bon service, mais aussi l'informer de ses droits et s'assurer que les délais de garde permis par la loi et autorisés par les juges au cas par cas sont respectés. En 2024, le gouvernement du Québec a dû verser 8,5 millions dans le cadre d'une action collective à des personnes qui avaient été détenues en garde préventive à l'hôpital plus de 72 heures. Il appartiendrait aussi aux intervenants pivots d'assurer le contact avec la famille et les proches de la personne. Ces dernières années, plusieurs enquêtes du coroner ont mis en évidence le manque de communication entre les familles et le personnel chargé de l'hospitalisation des personnes en crise. Une instance pour veiller au respect de la loi. L'Institut suggère aussi de mettre sur pied une instance pour faire un suivi continu de l'application de la loi P38 et notamment s'assurer qu'elle est appliquée de la même manière partout. Le rapport ne précise pas s'il s'agirait d'un comité ou d'un organisme, mais il stipule que l'instance devrait faire des recommandations à chaque année sur l'application de la loi P38, ainsi que superviser et soutenir le travail des intervenants pivots. Le rapport propose aussi de simplifier les mécanismes légaux de garde en établissement. À l'heure actuelle, il y a trois types de garde: préventive, provisoire et autorisée. La garde préventive d'une durée maximale de 72 heures débute à l'hospitalisation. Pour la garder plus longtemps et obtenir une garde provisoire allant jusqu'à 96 heures, il faut l'approbation d'un juge. Et il est possible de retourner devant le juge une seconde fois pour obtenir une garde autorisée. Afin de simplifier le processus, l'IQRDJ propose de fusionner les gardes préventives et provisoires en une simple garde temporaire qui pourrait s'étirer à 120 heures au maximum. D'autres recommandations concernent les proches des gens en crise pour lesquels on préconise des services spécifiques, mais aussi les policiers pour qui on requiert plus de formation et de soutien de la part d'équipes psychosociales. Québec va bientôt légiférer. L'actuelle ministre responsable du dossier, Sonia Bélanger, n'a pas indiqué si elle entendait suivre les recommandations de l'IQRDJ. Mais elle dit vouloir déposer un projet de loi prochainement pour moderniser la loi P38. La P38 n'a pas été actualisée depuis plus de 25 ans, depuis son adoption en 1997, a-t-elle déclaré par écrit au Devoir. Notre société a évolué et notre cadre législatif doit mieux refléter les réalités d'aujourd'hui. Le rapport a par ailleurs été accueilli avec soulagement par les organismes qui veillent au respect des droits des personnes souffrant de troubles mentaux. Action Autonomie se réjouit notamment du maintien des exigences de P38 pour les hospitalisations forcées. L'organisme exprime toutefois des réserves sur la proposition de fusionner les gardes préventives et provisoires pour les remplacer par une garde temporaire maximale de 120 heures. Il s'agit d'une augmentation de la durée de la privation de liberté sans autorisation du tribunal. Des mécanismes devront être mis en place pour que les délais prévus ne soient pas dépassés, comme ils le sont encore trop souvent. C'était « Pas d'assouplissement pour hospitaliser de force une personne en crise », recommandent des experts. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir. Thank you.
L'escouade animale, un texte de Maxime Bergeron, paru le 30 décembre 2025 dans la presse. Ma première visite à la SPCA de Montréal remonte au début de 2024. J'étais allée y voir un chien blond de 2 ans, élancé et vigoureux, en vue de l'adopter. Un magnifique animal, aussi ultra-dépendant. Il ne pouvait rester seul plus de 20 minutes sans sombrer dans un désarroi absolu. Incompatibilité totale. Revirement de situation. Je suis repartie avec une Boston Terrier obèse de 7 ans, noire et blanc, aux grands yeux globuleux. Elle a vite retrouvé la forme grâce à une diète et un peu d'exercice. Elle me suit partout à ce jour avec passion. Les surprises de la vie. Ma petite bête, un qualificatif factuel depuis sa perte de poids, est l'une des 13 000 recueillies par la SPCA de Montréal, bon an mal an. Le refuge, situé près de la célèbre Orange Julep et du métro Namur, est le principal point de chute des animaux abandonnés dans la métropole depuis des décennies. Mais plus pour longtemps. Depuis le 1er janvier 2026, l'organisme à but non lucratif OBNL ProAnima gérera le contrôle animalier pour le compte de la ville de Montréal. Il s'attend à recevoir dès sa première année environ 7000 animaux qui n'aboutiront plus à la SPCA. Le refuge situé sur le boulevard Pie-9 a obtenu un copieux contrat de 158 millions de dollars étalé sur 10 ans. Ce changement a été réclamé de longue date par la SPCA, aussi un OBNL. Elle veut se recentrer sur sa mission première, prévenir la maltraitance envers les animaux. Je suis retournée à la SPCA peu avant Noël, furtif moment d'émotion en arrivant devant l'immeuble de briques brunes où j'ai adopté mon Boston il y a 2 ans. On m'a fait visiter les coulisses du plus vieux refuge au Canada, fondé en 1869. J'en connaissais peu sur ses activités, je l'avoue, outre le fait qu'on pouvait y délaisser ou adopter un animal. Et il ne manquait pas de variété ce jour-là. Il y avait Chloé, une grosse chienne rousse sauvée in extremis après avoir avalé un t-shirt. Le vêtement a dû être extirpé de ses intestins au scalpel. La vétérinaire et la technicienne attitrée à son cas m'ont raconté ses péripéties chirurgicales. À un autre étage, j'ai rencontré une fratrie de 3 chats âgés de 16 ans. Monsieur, mademoiselle et Gazou, d'apparence juvénile, ont été retrouvés affamés dans un logement après le décès de leur propriétaire. Aussi présents, des lapins, une tortue géante, des rats et des dizaines d'autres bestioles maltraitées ou abandonnées. Beaucoup de ces bêtes sont délaissées à contre-cœur par leurs propriétaires, pour des raisons financières bien souvent. Mais d'autres sont extirpées d'un foyer négligent ou d'une ferme abusive ou d'un élevage illégal grâce aux efforts d'une équipe de 25 enquêteurs à temps plein. 25. La SPCA de Montréal a plusieurs pouvoirs, beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. Ces enquêteurs interviennent tous les jours dans des cas de maltraitance. Une véritable escouade animale dirigée par un ancien policier de 30 ans de carrière, Alain Tessier. Ces enquêteurs sont des constables spéciaux accrédités par le ministère de la Sécurité publique. Ils peuvent appliquer les dispositions du Code criminel concernant la cruauté et la négligence grave envers les animaux partout au Québec. On applique aussi la loi sur le bien-être animal, qui est la loi provinciale, m'a expliqué M. Tessier. Pour ça, on est nommé inspecteur par le MAPAC. On peut l'appliquer dans 107 municipalités au Québec. Le gros des interventions a lieu dans la région élargie de Montréal, mais la SPCA en fait aussi à Québec, en Mauricie, en Estrie, en Outaouais, en Abitibi, à Laval, dans Lanaudière, dans les Laurentides et en Montérégie. Les statistiques donnent le vertige. La SPCA de Montréal a traité 9230 appels de dénonciation de cruauté ou de maltraitance l'an dernier, une hausse de 15% en un an. Et le nombre d'animaux saisis, 179, a plus que triplé par rapport à l'année précédente. Sans tomber dans le pathos, j'ai demandé à Alain Tessier de me raconter certains des cas les plus surprenants qui ont mené à des accusations. Il m'a parlé d'un individu de Montréal qui capturait des animaux sauvages, comme des écureuils et des moufettes, pour les noyer dans un bac d'eau. Et de cet autre dossier d'enquête abracadabrant réalisé avec la collaboration de Post Canada. Ils avaient un colis qui se défaisait et à l'ouverture de la boîte, on a découvert plein d'animaux à l'intérieur, des vivants et des morts, narre-t-il. Il y avait des poissons, il y avait des crevettes, il y avait aussi des lézards, des serpents. La SPCA de Montréal élargit de plus en plus son spectre d'activité, entre autres en matière de violence conjugale. Elle a signé un partenariat avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC, il y a 3 ans. L'accord lui permet de placer en pension des animaux pris en sandwich lors de séparations houleuses. Le placement d'une bête dans un foyer sécuritaire, dont l'adresse reste confidentielle, peut faire toute la différence pour une femme victime de violences conjugales. Car certaines souhaitent quitter leur conjoint, mais ne peuvent se résigner à sacrifier leur animal. La SPCA a pris en charge 245 bêtes dans ce contexte depuis 2022. l'autre gros chantier de la SPCA après le 1er janvier 2026, lutter contre l'inflation. Avec plus de 200 employés et une armée de bénévoles, elle entend multiplier les banques alimentaires pour animaux. Nous en sommes rendus là. De nombreux proprios ont du mal à nourrir leurs bêtes, ce qui met à risque leur bien-être. La SPCA veut aussi organiser davantage de cliniques vétérinaires à bas prix, avec sa dizaine de spécialistes maison. L'objectif ? Soigner les animaux pour des propriétaires à faible revenu, incapables de payer les tarifs exorbitants au privé, et réduire du même coup le nombre d'abandons ou de morts évitables. Il restera toujours de mauvais maîtres, des irresponsables, des négligents, des violents. Les règles strictes sur la possession d'animaux en appartement continueront à gonfler la vague récente d'abandons. Les proprios ont le gros bout du bâton. Les locataires seront de plus en plus souvent confrontés à un dilemme cornélien, choisir entre son compagnon poilu ou se retrouver sans logis. Malgré ses nombreux pouvoirs d'enquête, la SPCA ne pourra faire de miracle à ce chapitre. C'était « L'escouade animale », un texte de Maxime Bergeron, paru le 30 décembre 2025 dans la presse.
De fausses moustaches, des femmes dénoncent les inégalités de genre sur LinkedIn. Un texte d'Anouj Chopra et Rachel Blundi de l'agence France Presse, paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. En changeant leurs paramètres de genre en hommes et portant de fausses moustaches sur leurs photos, de plus en plus de femmes défie ce qu'elle dénonce comme un biais sexiste des algorithmes du réseau social professionnel LinkedIn. Des utilisatrices ont commencé à affirmer le mois dernier qu'afficher une identité masculine sur ce site de réseautage professionnel avait considérablement accru leur visibilité, déclenchant une réaction en chaîne. Certaines ont changé leur nom. Simone devenant Simon, remplacer leur pronom « elle » par « il » ou même utiliser l'intelligence artificielle pour réécrire leurs anciennes publications avec un ton plein de testostérone qui, selon elle, attirerait mieux l'attention de l'algorithme. Par humour, certaines arborent une fausse moustache sur leur photo de profil. Pour quel résultat? Beaucoup de femmes assurent que leur visibilité et les interactions de leur audience sur LinkedIn ont grimpé en flèche. Jusqu'ici calme, les espaces commentaires sous leurs publications sont soudain devenus très animés. J'ai changé mon pronom sur LinkedIn et, sans intervenir, j'ai battu mes propres records d'engagement, c'est-à-dire le nombre de mentions « j'aime », les commentaires, les partages de publications, etc., a ainsi écrit Joe Dalton, entrepreneur et investisseur basé à Londres, ajoutant que ce changement avait augmenté sa visibilité de 244%. Mais voici donc, avec une moustache collée, par pur intérêt scientifique, afin de voir si je peux tromper l'algorithme en lui faisant croire que je suis un homme, explique-t-elle. Disparité entre les genres. Lorsqu'une journaliste de l'agence France Presse, AFP, a changé ses paramètres pour se grimer en homme, les données analytiques de LinkedIn ont révélé que la portée de plusieurs de ses publications avait augmenté par rapport à la semaine précédente, enregistrant des milliers de clics supplémentaires. Ces expériences de LinkedIn reflète les disparités entre les genres, vécues de longue date par les femmes actives, indique Marlene Fritjofsson, directrice générale de Daya Ventures, qui développe et finance des start-up spécialisées dans la santé des femmes et est basée en Suède. LinkedIn a rejeté toute accusation de sexisme inhérente à son fonctionnement. Nos algorithmes n'utilisent pas le genre comme critère de classement, et le fait de changer de genre sur votre profil n'a aucune incidence sur la façon dont votre contenu apparaît dans les résultats de recherche ou le fil d'actualité, a déclaré un porte-parole de LinkedIn à l'AFP. Les femmes qui ont vu leur visibilité poussée vers le haut plaident dorénavant pour plus de transparence sur le fonctionnement de l'algorithme, largement opaque, ainsi que ceux d'autres plateformes qui mettent en avant certains profils et réduisent la portée d'autres. Concurrence. Je ne pense pas qu'il y ait une ligne de code dans le système technique de LinkedIn qui dise « 6 femmes promouvoir moins », a écrit Mme Frithjofsson dans un message publié sur la plateforme. Mais est-ce que je pense que des biais sexistes peuvent émerger des données saisies, des bulles algorithmiques et des normes culturelles traditionnellement associées à ce que doit être une voie professionnelle? Oui, absolument, avance-t-elle. Saxie Jane, responsable de la sécurité, de la confidentialité et de la gouvernance de l'IA chez LinkedIn, a déclaré dans une publication que les systèmes d'IA et les algorithmes de la plateforme prennent en compte des centaines de facteurs, comme la taille du réseau ou l'activité d'un utilisateur pour déterminer la visibilité de ses publications. Et l'augmentation du volume de contenu publié en ligne a également créé davantage de concurrence pour attirer l'attention, selon elle. Cette explication a été accueillie avec scepticisme sur le site de réseautage où une plus grande visibilité peut apporter de meilleures opportunités de carrière ou des revenus plus élevés. Rosie Taylor, une journaliste basée au Royaume-Uni, dit avoir constaté que la visibilité accrue de son profil, en étant un homme, pendant une semaine seulement, avait fait bondir le nombre de visiteurs uniques de sa newsletter de 161% par rapport à la semaine précédente. Cela a entraîné une augmentation de 86% des nouveaux abonnements hebdomadaires via LinkedIn. Qui sait quel succès j'aurais pu rencontrer si l'algorithme m'avait considéré comme un homme dès le départ, s'interroge-t-elle. C'était « Sous de fausses moustaches, des femmes dénoncent les inégalités de genre sur LinkedIn », un texte d'Anouj Chopra et Rachel Blundy de l'agence France Presse paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.